à mettre des chaussures à l'automne. Il ne devait jamais se laver ou mettre des vêtements propres. Et il pouvait merveilleusement bien jurer. En un mot, tout ce qui permet qu'une vie soit précieuse, cet enfant l'avait. En tout cas, c'est ce que pensaient tous les autres petits garçons respectables de son village. Donc le voilà, avec quelques-uns de ses amis. Il a une pipe dans sa main et il apprend à ses autres amis de 13 ans à fumer. Donc ils n'ont vraiment pas une bonne vie. Je ne vais pas vous raconter toute la vie de ce jeune homme de 13 ans, mais il a été adopté par un couple de vieilles femmes et elles voulaient absolument le civiliser. Elles l'ont forcé à se laver, à porter des vêtements propres, à s'asseoir bien droit sur sa chaise à table quand il devait manger son repas. Donc elles lui ont rendu la vie vraiment difficile. Et puis ensuite, elles ont décidé de lui enseigner la religion. Donc elles voulaient en faire un jeune homme chrétien de bonne famille. Et une partie de leur enseignement religieux, était qu'elle l'appelait par plein de noms vraiment pas très gentils, même très méchants, où elle le disait, toi tu es une pauvre brebis perdue. Et donc elle l'emmenait dans un petit placard et elle lui disait, voilà, on va prier pour toi. Et donc, voilà ce qui s'est passé dans ses propres mots à lui. Cette Madame Watson m'a emmenée dans le placard pour prier, mais rien n'en est ressorti. Elle m'a dit de prier tous les jours et que tout ce que je demanderais, je l'aurais. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai essayé. Une fois, j'ai eu une canne à pêche, mais je n'avais pas d'hameçon. Ça ne me sert à rien si je n'ai pas d'hameçon. J'ai essayé de prier pour des hameçons 3 ou 4 fois, mais d'une certaine manière, ça ne marchait pas. Alors, un jour, j'ai demandé à Mme Watson d'essayer pour moi. Mais elle a dit que j'étais un idiot. Elle ne m'a jamais dit pourquoi. Et je ne comprenais pas pourquoi elle m'appelait un idiot et comment faire marcher la prière. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme Huckleberry Finn. Ils entendent parler de la prière, donc voilà, ils entendent qu'il y a d'autres gens qui prient, donc ils essayent, mais ça ne marche pas. Ils demandent des choses, mais ils ne les ont pas. Ou alors, comme Huckleberry Finn qui veut aller à la pêche, ils ont des cannes à pêche, mais ils n'ont pas de hameçon. Alors, à quoi ça sert ? Ils essayent de faire de la prière quelque chose qui fonctionne, mais ça semble impossible. Donc, ils abandonnent. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Et je voulais vous présenter Huckleberry parce que lui, il a essayé la prière et ça ne marchait pas. Mais Jean, au chapitre 15, nous apprend, nous enseigne des choses au sujet de la manière dont la prière fonctionne, dont on reçoit des réponses à la prière. Donc nous allons relire les versets 1 à 17 du chapitre 15. Donc écoutez bien ce qu'il dit au sujet de la prière, ce que Jésus nous dit au sujet de la prière. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait deux versets qui parlaient de la prière dans ce passage, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et le verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Notez bien qu'il est dit, quoi que vous demandiez, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Et ça, c'est quelque chose que Jésus nous dit. C'est une promesse qu'il nous fait. La promesse que nos prières, enfin qu'il répondra à nos prières. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que Huckleberry Finn n'avait pas compris? Il a essayé de prier, mais ça ne marchait pas. Mais Jésus dit, pourtant, ça va fonctionner, je répondrai à vos prières. Alors, on va commencer à étudier le verset 16. Si on commence par là, ça va devenir clair. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Alors, on va commencer par là. Jésus dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il parle à ses disciples.
Et il y a un sens dans lequel
et d'une certaine manière, oui, les disciples avaient choisi de le suivre. Jésus a dit « Suis-moi ». Et ils devaient prendre une décision. Est-ce qu'ils se levaient ou pas pour le suivre? Est-ce qu'ils le suivent ou pas? Donc oui, d'une certaine manière, ils ont choisi. Donc si vous êtes un disciple de Jésus, oui, vous avez choisi de le suivre. Mais il y a un sens plus profond. Il y a quelque chose de plus profond derrière ça, derrière cette décision qui est la vôtre. Et c'est Dieu qui vous appelle. Et il vous a choisi. C'est Dieu qui vous appelle, qui vous choisit et qui dit, je te veux. Et il t'a choisi. Il a ouvert tes yeux pour que tu vois ton besoin de lui, pour voir sa gloire, pour voir à quel point il est glorieux. Et à ce moment-là, la décision devient relativement simple. C'est comme demander à un petit enfant, « Hey, est-ce que tu veux une glace ?»« Bah oui, bien sûr que j'en veux une. Qui n'en voudrait pas ?» Parce que Dieu et son salut semblent tellement attirants à nos yeux parce qu'il nous l'a révélé. Donc il dit, « Je vous ai choisi. » Je vous ai donné une mission, je vous ai établi, je vous ai choisi pour être mes ambassadeurs. Donc je vais te donner un travail à faire, et ce travail, et cette chose que je t'ai demandé de faire, c'est de porter du fruit. Je t'ai choisi et je t'ai établi pour que tu portes du fruit. Et ce fruit, il doit demeurer. La semaine dernière, enfin, il y a quelques semaines, on a parlé de ce que sont les fruits qu'on doit produire. Donc, le fruit qui doit ressortir de nos vies, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, les différents adjectifs des fruits de l'esprit, et donc des actions qui en découlent, et les autres croyants. Et donc d'autres personnes qui sont attirées, d'autres chrétiens qui sont attirés plus proches de Jésus, qui sont encouragés et affermis par les fruits qu'ils voient dans notre vie. Donc ça, ce sont les choses que nous avons été appelés à produire. Nous avons été choisis et établis pour produire ces fruits-là. Donc il dit, vous ne m'avez pas choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc à cause de ça, je vous ai aussi choisi et établi et je vous ai donné aussi un privilège particulier qui est que tout ce que vous demanderez dans mon nom, en mon nom, le Père vous l'accordera. Donc je vous ai choisi et établi pour aller et faire quelque chose et avec cet appel, vous recevez le privilège de recevoir ce dont vous avez besoin pour accomplir cette tâche. Donc la capacité de recevoir des choses dans la prière vient avec notre appel et doit être utilisée pour accomplir la tâche qui nous a été confiée. Donc en prière, on reçoit tout ce dont on a besoin pour accomplir la tâche qui nous a été confiée. On ne doit pas s'attendre à recevoir des réponses à la prière qui ne sont pas liées à la tâche qu'il nous a confiée. Pensez-y. Pensez à votre travail, par exemple. Peut-être que vous avez un travail dans lequel vous avez un budget que vous pouvez dépenser. Donc vous pouvez dépenser une partie de l'argent de la société. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont donné cette autorité? Quel était ce privilège qui vous a été donné? Vous avez un budget pour faire votre travail, pour que votre travail soit fait. Donc si on vous donne l'autorisation de dépenser de l'argent, vous pouvez dépenser l'argent de la société. Et là, vous décidez que, ah oui, vous avez vraiment besoin d'une Maserati et vous dépensez l'argent pour acheter une voiture plutôt que d'accomplir votre travail. Je ne crois pas que vous allez y garder ce travail très longtemps. C'est la même chose en prière. On vient à Dieu, au Père, en prière, en lui disant, hey, j'ai besoin d'une Maserati, donne-moi-en une. Et Dieu va dire, et en quoi ça porte du fruit? Ça va me rendre très heureux. Non. Non. Donc ça, c'est le problème d'Huckleberry. Il ne pense pas au fait de porter du fruit. Il pense simplement à ce qu'il veut, à ce qu'il désire. Et ce qu'il veut, c'est un génie dans une bouteille qui va réaliser ses vœux. Mais là, on nous dit spécifiquement que ce n'est pas la bonne manière de prier. Regardons Jacques, chapitre 4. Verset 3. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc Jacques nous dit, la raison pour laquelle tu ne reçois aucune réponse à tes prières, c'est parce que tu te concentres sur les mauvaises choses, tu te concentres sur tes désirs, alors que tu as été appelé à porter du fruit. Et si tu pries en accord avec le fait de porter du fruit, là, il y a de fortes chances que Dieu réponde à tes prières. Regardons aussi Luc chapitre 11. Jésus vient de prier le Notre Père, et au verset 5, il dit, « Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc Jésus leur donne cette parabole. Et voici ce qu'il dit en bref. Si tu vas chez ton ami au milieu de la nuit et que tu frappes à la porte et que tu dis, donne-moi 3 pains, ton ami te dira, mais attends, c'est le milieu de la nuit, reviens demain. Mais parce que tu vas demander à ton ami, pas pour toi, mais parce que quelqu'un est venu chez toi, est venu te rendre visite et il a besoin, il est dans le besoin, ton ami dira « Ok » et il te donnera le pain dont tu as besoin. Parce que ton cœur n'est pas égoïste, « Donne-moi du pain pour moi », mais tu es plutôt un canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre. Dans d'autres mots, tu n'es pas concentré sur toi, mais tu es concentré sur le fait d'être un vaisseau, d'être un canal, de porter du fruit dans la vie de quelqu'un d'autre pour Dieu. Donc, c'est simplement une question de perspective. Vous avez été choisi et établi pour porter du fruit. Et avec cela, la promesse vous a été donnée de recevoir ce dont vous avez besoin pour porter ce fruit de la part de Dieu. Donc, gardons bien cette perspective à l'esprit alors que nous continuons de parler des fruits que nous avons été appelés à porter. Donc, on a été établi pour un objectif, de rendre gloire à Dieu ou d'apporter de la gloire à Dieu en portant du fruit. Donc, la réponse à la prière est une promesse que nous avons reçue pour pouvoir accomplir cette mission. Et donc maintenant, comment portons-nous du fruit? Quel est le secret pour porter du fruit? Comment est-ce qu'on fait? Alors, nous en avons déjà parlé. C'est demeurer en Christ. Si nous demeurons en Christ, l'Esprit agit à travers nous pour porter du fruit. Donc on a parlé la semaine dernière de ce que ça signifie de demeurer en Christ. C'est d'avoir une relation, une connexion profonde avec lui et de l'entretenir de manière à ce que l'Esprit Saint qui donne la vie puisse couler dans nos vies, à travers nos vies et produire des fruits qui rendent gloire à Dieu. Donc on doit demeurer en Christ et lui produira le fruit à travers nous. Ce qui nous apporte à la deuxième promesse de ce passage, au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cette promesse a une condition. Si vous faites ceci, alors cela. Si vous ne faites pas ceci, la deuxième partie ne s'applique pas. Donc ne prenez pas qu'une partie du verset et mettez-la sur votre frigo. Non, non, il faut prendre tout le verset et le coller sur votre frigo. Donc si vous demeurez en moi, donc si vous n'avez pas entendu le prêche de la semaine dernière, vous pouvez aller l'écouter en ligne pour voir ce que signifie demeurer en Christ. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir les paroles de Christ qui demeurent en nous? Et pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi avoir ses paroles en nous est l'un des secrets ou l'une des choses que nous devons faire pour recevoir des réponses à nos prières? La prière est bien plus que ce que nous pensons. La prière, c'est bien plus que la conception que la plupart d'entre nous en a. La plupart de nous, honnêtement, nous sommes comme Huckleberry. Nous avons un besoin. Et nous voulons comprendre comment Dieu peut répondre à ce besoin en prière. Voilà, j'ai pas comme quand on était étudiant. Seigneur, les examens arrivent bientôt, j'ai pas beaucoup révisé, aide-moi à avoir de bonnes notes. C'est ce genre de prière désespérée. La plupart d'entre nous, je pense que c'est là où on en est, d'une manière ou d'une autre. Mais la prière est incroyablement plus que ça. La prière, c'est un partenariat avec Dieu. L'une des manières dont Dieu travaille sur terre, c'est à travers les prières de son peuple, de ses enfants. Et donc, ce qu'il fait, c'est à travers sa parole, il révèle ce qu'il veut accomplir, et son peuple le voit dans sa parole et commence à prier pour que cette réalité, pour que ça devienne réalité. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Daniel était un jeune homme, un peu plus vieux que Huckleberry. Quand Jérusalem a été envahie par les Babyloniens, et les Babyloniens, quand ils sont arrivés, ont cherché les jeunes hommes les plus sages et les plus brillants, et ils les ont emmenés et envoyés à l'université de Babylone, et ils les ont fait travailler au gouvernement. Et Daniel a été choisi pour être l'un de ces hommes. Mais il avait aussi une relation très profonde avec Dieu. Et quand on lit le livre de Daniel, on voit qu'il passait beaucoup de son temps à jeûner et à prier. Au fil des années, les Perses sont arrivés et ils ont envahi Babylone. Et donc maintenant, il se retrouve à travailler pour les Perses. Et il est tellement bon dans ce qu'il fait. Il a tellement de succès que les Perses l'ont mis en deuxième position. Là, c'était la deuxième personne la plus importante du pays. Donc évidemment, ça lui a créé des difficultés avec les personnes qui voulaient sa place, qui convoitaient sa place, donc ils sont réfléchis à comment se débarrasser de lui. Et on voit que Daniel avait une vie incroyable de prière. Donc ils sont allés voir le roi. Et ils ont fait du roi une idole et ils ont demandé à tout le peuple de prier le roi. Et Daniel a refusé de le faire. Daniel a refusé de prier le roi. Il a continué de prier Dieu. Et donc, il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Il a été sauvé de la fosse aux lions. Enfin, c'est un homme qui avait une vie de prière intense. Et donc, Daniel, chapitre 9, au verset 1. La première année de règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des Mèdes. D'ailleurs, les Mèdes, aujourd'hui, ce sont les Kurdes. Donc, quand on voit les Kurdes ici, ce sont les Mèdes de la Bible. Sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel, au prophète Jérémie, pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Donc Daniel est dans la parole de Dieu. Il lit le prophète Jérémie et il voit que la captivité de son peuple est censé durer 70 ans. Et donc Daniel est âgé maintenant et il se souvient du nombre, enfin il se souvient de l'année à laquelle ça a commencé. Et ça fait presque 70 ans. Et Dieu a promis qu'à la fin de ces 70 ans de captivité, la captivité allait cesser. Donc c'est une promesse certaine de la part de Dieu. Donc, que fait Daniel quand il comprend la volonté de Dieu dans sa parole? Il se dit, oui, donc la parole de Dieu ne nous abandonne jamais, ne faillit jamais. Regardez ce qu'il fait au verset 3. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Daniel avait compris la volonté de Dieu dans les Écritures. Et il a commencé à prier conformément à la parole, en disant, « Seigneur, tu nous as envoyés ici à cause de notre péché, on se repent. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde, restaure-nous. » Et il commence à prier et à intercéder, et Dieu répond de manière profonde et puissante, parce que Daniel demeure dans la parole et il prie conformément à la parole. Mes amis, la prière, c'est un partenariat avec Dieu. Quand on commence à voir ce que Dieu veut, ce qu'il veut faire, et qu'on commence à prier conformément à sa volonté, ça change notre orientation au sujet de ce qu'est vraiment la prière. Ce n'est pas tellement recevoir des choses pour nous-mêmes que de libérer la volonté de Dieu sur la terre, des choses qu'il veut faire sur terre et que l'on comprend en demeurant dans sa parole. Donc notre prière doit être connectée à l'Écriture. La Bible est un livre de prière. C'est un livre de prière. Donc, laissez-moi vous poser cette question. Attendez. Laissez-moi être... Attention, ce n'est pas un livre de prière dans lequel vous cherchez un verset à prier pour voir quelque chose que vous voulez arriver. Donc, ce n'est pas un livre dans lequel on choisit un verset pour jeter un sort à quelqu'un ou pour voir quelque chose que nous, on veut voir se réaliser. Mais c'est pour voir ce que Dieu veut et sa volonté et prier pour sa volonté en partenariat avec lui. Vous voyez la différence? Comprendre ça a révolutionné ma vie de prière. Ça a révolutionné ma marche avec le Seigneur. Comprendre qu'il voulait m'utiliser dans la prière pour me montrer des choses dans sa parole pour lesquelles je pourrais prier, au sujet desquelles je peux prier à tout changer. Et j'ai commencé à utiliser, j'en ai parlé sur mon blog il y a quelque temps sur mon blog, ce que j'ai appelé la prière, la prière en réflexion. Donc en anglais, ça fonctionne, ça fait l'acronyme RAR. En français, ça ne fonctionne pas. Donc je lis un passage de l'Écriture, peut-être un paragraphe. Et ensuite, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Voilà ce que j'entends par là. J'étudie beaucoup. Donc, je regarde différentes idées, différents faits, et j'essaye de les mettre ensemble. Pour moi, il est important d'être d'accord avec la bonté de ce que je lis. Donc, je ne fais pas que lire, je m'arrête et je prie. Je prie une proclamation de la bonté de la vérité de ce que je lis. Et la prochaine étape, c'est la révélation. Je prie pour une révélation plus grande, une compréhension plus grande de la vérité qui est dans ce passage. Et je prie, enfin, pour que Dieu me donne les moyens de faire ce que le passage dit. Je vais vous donner un exemple. Allons dans Jean 15, puisqu'on y est. Je vais lire un passage court. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Donc je lis par exemple ce passage et je dirais, Seigneur, je suis d'accord avec cette vérité. Seigneur, tu es le vigneron. Tu peux tailler tout ce que tu veux. Toi, tu veux porter du fruit. Et tu sais que tu veux produire du fruit à travers moi. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose, Seigneur. C'est une bonne chose. Seigneur, révèle-moi ce que ça veut dire. Comment je peux demeurer en toi? Comment est-ce que je fais pour demeurer en toi? Enseigne-moi. Apprends-moi à demeurer en toi. Seigneur, montre-moi. Aide-moi à comprendre. Emmène-moi plus loin que ce que je comprends actuellement. Montre-moi de nouvelles choses. Montre-moi comment toi tu vis en moi et moi je vis en toi. Ça semble étrange. Aide-moi à comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, donne-moi les moyens. Aide-moi. Donne-moi les moyens de vivre, de le vivre, de porter du fruit. Donne-moi les moyens de vivre dans cette relation profonde avec toi. Et je commence à prier, en fait, à travers ce passage. Le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Le Seigneur est mon berger. Et donc là, moi, ma tendance, ce serait de chercher berger dans toute la Bible, les concordances, etc. Est-ce que ça veut dire d'être un berger dans le Nouveau Testament, etc. Très intellectuel, un niveau très intellectuel. Non. Le A veut dire « je suis d'accord ». Ok, Seigneur, tu es mon berger. Même maintenant, là, tu me protèges, tu prends soin de moi. Je n'ai rien à craindre. Tu me protèges, tu me surveilles, tu veilles sur moi. Tu es un bon berger. Je suis d'accord avec ça. Seigneur, révèle-moi plus profondément ce que ça veut dire. Et donne-moi les moyens de vivre une vie avec toi comme étant mon berger. On pourrait prendre d'autres passages. Ça marche avec presque n'importe quel passage de l'Écriture. Mais quand on demeure dans la parole et qu'on commence à prier pour les choses qui nous sont révélées dans la parole, on peut commencer à utiliser aussi cette méthode pour prier pour nos enfants, pour notre Église. L'une des choses que je fais de manière assez régulière, c'est de prier à travers l'une des épîtres de Paul, tout particulièrement pour notre Église. Donc je prie, je vous donne un exemple. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Merci parce que Jésus est assis à la droite du Père. Louange à toi, Seigneur, c'est une bonne chose. Seigneur, je prie qu'en tant qu'Église, on ait une compréhension plus profonde de ce que signifie le fait de tourner nos esprits vers toi, de tourner nos esprits vers ce qui est en haut. Seigneur, enseigne-nous en tant qu'Église à le faire, parce qu'on est tellement concentré sur ce qui se passe ici sur terre, mais aide-nous à nous concentrer sur toi et donne-nous les moyens en tant qu'Église de le vivre. Et vous savez, pendant que je faisais ça, que j'ai pratiqué ce type de prière, vous savez ce que j'ai vu ? J'ai vu des réponses à mes prières. J'ai vu des réponses à mes prières. Dieu dit oui. Je veux que Trinity soit concentré sur les choses d'en haut. Et doucement, j'ai vu les choses. J'ai vu notre Église commencer à se concentrer sur les choses d'en haut. Dieu répond aux prières. Alors que je commence à prier, Seigneur, apprends-moi à demeurer en toi. Et j'ai commencé à sentir que ma relation avec lui était plus profonde. J'ai commencé à voir des fruits dans ma vie, des réponses à mes prières, parce que je demeure dans la parole et je demeure en lui. Et je veux être un partenaire, je veux être son partenaire. Je veux prendre part à ce qu'il fait. Et alors qu'il me montre ce qu'il veut faire, je peux prier en accord avec ça. Et ensuite, il libère sa puissance et son pouvoir pour répondre aux besoins. Et ça, c'est la manière dont fonctionne la prière. C'est bien plus que simplement recevoir des hameçons pour sa canne à pêche. C'est être partenaire avec Dieu et avec dans ce qu'il fait sur terre. L'histoire n'appartient pas aux politiques. L'histoire appartient aux personnes qui prient. Et donc nous prions, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je vois quelle est ta volonté. Et c'est pour ça que je prie avec foi que cela soit établi sur terre. Prions. Père, enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier. Seigneur, que nous ne soyons pas satisfaits avec l'absence de réponse dans notre vie de prière, mais que nous cherchions ce que tu veux, ce que tu dis. Quand tu dis tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Aide-nous à comprendre les conditions. Aide-nous à comprendre comment ça marche. Que nous, en tant qu'Église, nous soyons un lieu de prière. Puissions-nous crier à toi et voir la justice faite sur terre. Puissions-nous crier à toi et voir ta miséricorde libérée sur terre. Ta parole dit qu'il y aura des gens de toutes les nations qui seront réunis autour de ton trône, et on prie que ton évangile aille dans toutes les nations et que des personnes de toutes les nations se retrouvent autour de ton trône. Seigneur, nous prions. Nous prions. Que tu nous enseignes à prier, que tu nous apprennes à prier. Pour que nous puissions porter du fruit pour toi. Des fruits qui demeurent, qui restent, qui durent. Et qu'à cause de ces fruits, tu reçoives de la gloire. À toi soit toute la gloire, pour toujours et à jamais. Amen.